Afrique. Le magazine Femina de VOA Afrique.
La femme doit-elle nécessairement militer pour ses droits ? Le faites-vous au quotidien au plan individuel ? Pensez-vous être féministe ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge pour développer ensemble ces quelques questions au cours d'une discussion exclusivement entre filles, à l'occasion du 8 mars passé, qui devrait durer toute l'année, et du mois de la femme qui est de plus en plus célébré dans le monde, à commencer par les États-Unis où chaque jour de mars est considéré comme un 8 mars, journée internationale de la femme. Alors avec moi dans le studio 13 de VO Afrique, j'ai deux collègues, Anastasie Tudiesch, que vous connaissez.
Bonsoir.
Et Mélisse Hegel, que vous connaissez également, qui est de la partie.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, une autre collègue, Nanit Talani, se joindra à la discussion en cours dans quelques minutes. Et nous avons en ligne, à Toulouse, Séverine Laurent, qui est directrice d'Africacom.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Nanit, bonsoir Mélisse.
Et bonsoir, comment ça va ?
Mais ça va bien, ça va bien. Une bonne fin de journée.
Une bonne fin de journée à Toulouse. Alors, nous avons également deux auditrices en ligne. Mariam Koulibaly, au Mali. Mariam, comment ça va ?
Oui, ça va, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Et nous avons donc également Caroline du Nord, Lola Silla.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Mélissa, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors, une petite définition sur le féminisme, hein, parce que le féminisme, ces dernières années, a eu vraiment une sorte de connotation assez péjorative par rapport à certaines personnes hein, qui le critiquent. Mais voilà ce que dit bon, Wikipédia. Moi, j'aime bien Wikipédia, ils ont des bonnes définitions. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Alors l'objectif principal du féminisme est de réformer les institutions de sorte que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi, droit à l'éducation, droit au travail, droit à la maîtrise de leurs biens et droit de vote des femmes constituent des revendications principales de la première vague du féminisme. Alors, première vague, oui, si on veut, parce que c'est encore le cas finalement. Aujourd'hui, dans certains pays, on a des lois, notamment les codes de la famille, de nombreux exemples où la femme dépend encore de la bonne volonté de son époux, que la loi considère encore hein, comme chef de famille. Et ce n'est jamais gagné d'avance, car même dans certains pays où hommes et femmes sont considérés comme égaux devant la loi, les droits de ces dernières sont copieusement bafoués parfois même religieusement bafouées, pourrions-nous dire, et les mentalités évoluent à tout petit pas. Alors, on va parler peut-être sur l'évolution des mentalités. Je voudrais donner d'abord la parole à Séverine. Séverine, tu m'as dit hier, ma dernière mission en campagne malienne a effectivement réveillé mon féminisme. Vas-y, parle-nous de tout
c'est vrai,
ça.
C'est vrai, en fait, mais je m'étais pas rendu compte... je crois des difficultés auxquelles on fait face quotidiennement parce qu'on grandit on grandit dans des cultures qui nous, en tout cas moi qui me semblait pour moi c'était normal hein. Il y avait plein de choses normales et quand je me suis retrouvée dans la campagne malienne ou dans des réunions avec 80 personnes dont 79 étaient des hommes où j'avais pas le droit de parler ou en tout cas si je parlais on avait une technique parce que j'avais un collaborateur qui ensuite devait aller m'excuser d'abord avant de pouvoir rebondir sur ce que je disais. Je me suis sentie amoindrie, je me suis sentie complètement, comme quelque chose qui ne sert à rien en fait, relégué en deuxième, voire troisième plan, du simple fait d'être femme. Ça a été une épreuve.
Mais alors ça, c'est une découverte que tu as fait, on va dire, sur le tard quand même. On peut savoir quel âge tu as, Séverine ?
J'ai 42 ans,
ah bah,
bientôt.
Tu vois. Et en fait,
j'ai 42 ans bientôt, mais non, vous savez, je crois que j'avais pour moi la jeunesse, et donc son emportement, et son peut-être... encore une fois, toutes les difficultés auxquelles je faisais face me semblaient tout à fait lambda, ouais. Normal, hein, jusqu'à ce que je réalise que non, il y a vraiment une réelle différence. Et c'est en voyageant beaucoup, hein, que je me suis rendu compte à travers le monde, en Arabie Saoudite particulièrement, que le droit des femmes est complètement bafoué et qu'on est la dernière roue de l'espèce humaine, en fait. On est vraiment à travers le monde, c'est très compliqué notre situation. Et c'est très compliqué.
Alors je vais me tourner vers Mélisse. On peut dire en fait Mélisse qui fait partie de la nouvelle génération en quelque sorte, parce qu'elle est jeune. Mélisse, quel âge tu as?
J'ai 22 ans.
22 ans, voilà. C'est la nouvelle génération. Et Mélisse, à 22 ans, elle est déjà tout à fait consciente de cela. Moi, je peux vous dire qu'à 22 ans, comme peut-être Séverine ou d'autres, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout concernée par ça. Je me rendais même pas compte que ça existait, parce que j'ai eu la chance de grandir finalement dans un milieu où, bon, on voit pas forcément tout de suite ces petits. Alors Mélisse, qu'est-ce qui t'a vraiment dirigé, qu'est-ce qui t'a vraiment indiqué que finalement il fallait faire quelque chose?
En fait, le problème des fois avec le féminisme, c'est que les gens pensent que c'est quelque chose de mauvais et que ce sont les femmes qui veulent prendre le pouvoir sur l'homme. Mmh. Alors que pas du tout, comme tu c'est l'as dit ça, tout ouais. à l'heure, c'est l'égalité qu'on veut. Et le problème, je pense que c'est le isme à la fin. Parce que quand voilà tout ce qui est terrorisme, totalitarisme, etc., il y a un isme à la fin et c'est connoté négativement. Mmh. Et alors que le féminisme, c'est juste vouloir que les hommes et les femmes soient égaux. Et c'est pour ça qu'on fait cette journée internationale des droits des femmes. Et moi, ça me paraît évident. Mais le problème, c'est que je vois aussi autour de moi et avec des gens qui ont le même âge que moi, certaines personnes disent ça ne sert à rien de penser aux femmes qu'une seule journée dans l'année, parce que ça ne sert à rien, parce qu'après, de toute façon, on en reparlera pas les prochains jours. Sauf que je pense que c'est important, justement, d'avoir une journée consacrée pour nous, pour que les gens puissent penser vraiment ce jour-là aux femmes et aux droits qu'elles méritent dans le monde.
Anastasie, la lutte au quotidien, tu connais ça?
Oui, bien sûr, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention le témoignage de Laurence. Mmh. Et c'est Séverine, pardon. Et vraiment, qui dit bien que les voyages forment la jeunesse, parce que la même expérience que Séverine a eue en allant au Mali, eh bien c'est ce que j'ai vécu en France, parce que jusqu'à il y a 6 mois, je travaillais à Paris. J'y vais travailler à Paris comme journaliste, et le même sentiment de mal-être et d'être considérée comme à part parce que femme, je l'ai ressenti en étant journaliste sur une émission où j'étais la seule femme entourée d'hommes, et j'avais droit systématiquement à des remarques sexistes.
Ouais.
Et le
présentateur
du... Oui, bien sûr. Ouais, et le présentateur n'était absolument pas méchant. C'était un gentil bougre. Mais enfin, il ne pouvait pas s'empêcher de me faire des remarques sur mon physique.
Ouais.
Et tu ressembles à une panthère. Oh, tu es belle comme une lionne. Ouais, et j'aime ton balcon fleuri et ta malle arrière. Ouais. Et j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'était en France. Et j'ai des copines qui vivent dans le 16e, peintres, qui ont fait HEC et qui me disent à quel point elles se sont... Et je pense à une amie en particulier qui, pendant 30 ans, a été diminuée par son mari, qui disait « Tais-toi, tu n'es qu'une femme, tu ne connais rien, tu ne sais rien. » Et ces gens-là ont eu 4 enfants, dont 3 filles. Et ils les ont élevées dans cette idée que elles ont entendu, les filles de mon amie, leur père constamment les diminuer et diminuer la gent féminine. Donc c'est très bien de voyager, parce qu'on se rend compte un peu partout que la problématique de nos places en tant que femmes sont un véritable combat. Oui.
Et il faut dire que même en France, hein, parce que les gens n'ont pas l'air de s'imaginer, mais moi, même ma génération, même en France, on est de familles où nos parents avaient ce type de rapport, les parents des années 60, où déjà même les lois, c'était pas gagné, hein, c'était vraiment le début. Et pour revenir sur ce qu'a dit Séverine tout à l'heure, moi, je me suis rendu compte que mon propre pays, mon pays, la France, dans lequel j'ai grandi, était sexiste après avoir voyagé dans le monde, après avoir voyagé sur plusieurs continents, dans plusieurs pays. Je suis revenue chez moi Et c'est là que j'ai réalisé que mon pays était extrêmement sexiste, c'est-à-dire que j'avais à peu près 35 ans.
Ah, ça c'est clair. Et il y a un tout petit détail pour vous parler du sexisme, comme il est intégré. À chaque fois que je suis sur un plateau de télévision, je suis assez grande et je me tiens droit. Systématiquement, mon siège est baissé pour que l'homme... Souvent, je suis avec des hommes plus petits que moi sur les plateaux. Systématiquement, on baisse mon siège et on élève le leur.
Il ne faut pas les impressionner.
Parce que psychologiquement, il ne faut pas que je sois plus grande que le monsieur qui est à côté de moi. Et donc, on a toujours l'impression que je suis plus petite que mes voisins, alors que c'est l'inverse la plupart du temps.
Et c'est intéressant parce que ça, c'est des détails,
Mais le diable est dans les détails.
Voilà, c'est exactement ça. On a Mariam Koulibaly en ligne. Mariam.
Oui.
Alors, dis-nous Mariam, toi tu es à Bamako.
Oui, je suis à Bamako.
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir ton point de vue sur ces questions-là?
Oui, je suis entièrement d'accord que les femmes aient le même droit que les hommes. Même si on ne peut pas être égal aux hommes, mais sur certains plans, sur le plan droit de la femme devant la loi, et même dans la vie pratique, les femmes ont droit à certaines choses au même titre que les hommes. Il y a des femmes présidentes,
Oui, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. On le sait, il y en a quelques-unes. Mariam, voilà. Mais toi, comment tu vis la situation dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que tu as souffert de ça également?
Bon, je n'ai pas trop souffert parce que je suis une battante. Depuis toute petite, je me bats toujours pour avoir ma place.
C'est ça.
Je suis l'aînée d'une famille de à peu près 8 garçons et 3-4 filles.
Okay.
Donc, je suis l'aînée, on me respecte.
C'est une bonne école.
On me respecte, on me donne ma place et moi-même, je crée ma place. Mm-hmm. Voilà.
Oui, ça, c'est une très bonne école. Et Lola Silla, en Caroline du Nord, tu es là?
Oui, je suis là, je vous écoute. Donc, moi, ici, je suis arrivée ici, j'ai 42 ans. Mm-hmm. Je suis arrivée ici à 23 ans. J'ai quitté le Congo, la RTC chez moi. Chez moi, je ne m'inquiétais pas, en fait, de cette... C'était un peu normal, je peux dire. Je suis une fille, il y a des choses pour les filles et il y a des choses pour les garçons. Les filles ne font pas ça. C'était comme ça dans le quotidien, dans notre quotidien à la maison. Oh, ça, c'est pas pour les filles. Une fille ne fait pas comme ça. Et quand il faut travailler à la maison, c'était la fille qui travaille. Mais parce que tu vas être mère plus tard, parce que tu vas t'occuper de ta famille. Arrivé ici, il faut dire qu'ici, aux États-Unis, on est un peu protégé par la loi. Il n'y a pas tellement ça, mais j'ai revécu ça encore quand je suis partie au Congo en 2010. De 2010 jusqu'en 2014, je suis restée au Congo où mon mari avait un contrat là-bas. J'ai revécu, il y a des choses que je n'acceptais pas. Mais les gens au boulot, moi je suis journaliste de formation, je travaillais à la radio nationale. Et au boulot, des fois quand je parle, les gens disent « Ah ben toi, tu es maintenant comme une blanche. Hein. » Ah ben ça c'est pas ça. Même les dames, c'est pas
ah oui, parce qu'on
dames.
A souvent...
Même les dames me disaient, mais c'est comme ça, toi tu es comme une blanche. Hein.
C'est le mauvais exemple de ne pas suivre.
En fait, il y a des remarques comme ça quand tu arrives. C'est ce que je crois Mélissa a dit. Il y a des remarques sexistes que moi je n'acceptais pas. Il y a des choses comme ça qu'on disait. Tu viens en retard ou tu t'excuses. Mais là, on associe le fait que tu es une femme. Ça se comprend. Et on dit par exemple, oui madame, vous on vous comprend parce qu'il faut d'abord faire plaisir à votre homme la nuit et puis vous réveiller très tôt le matin. Donc c'était des choses que moi je n'acceptais pas. Un jour je suis allée à la banque ouvrir mon compte bancaire. On m'a dit il faut un droit marital. J'ai dit pourquoi un droit marital? On m'a dit non, il faut l'autorisation de votre mari. J'ai dit mais pourquoi il doit m'autoriser pour ouvrir mon compte? Et la fille, elle me demande mon identité. Je donne mon passeport comme je changeais de nationalité. Elle me dit, en fait, madame, on est au Congo. Hein. Ici, ce n'est pas en Amérique. Le mari doit autoriser.
Mais oui.
Et j'étais... Des choses comme ça me choquait.
Oui.
Pourquoi? Parce que j'étais ici 10 ans après, tu retournes. Mais maintenant, je vois avec ma fille qui n'a que 15 ans. Ça ne se passe pas comme ça avec elle. Hein.
Okay.
À la maison, ici, c'est tout le monde qui fait la vaisselle.
Eh ben
mais
voilà,
elle se dit même qu'elle est féministe, c'est ce qu'elle nous a dit dernièrement, qu'elle est féministe.
Voilà.
Donc, c'est différent, moi.
Séverine,
oui.
Séverine,
oui.
Dis-moi, est-ce que tu te bagarres un petit peu au quotidien par rapport à toutes ces questions-là ? Est-ce que le féminisme, c'est bien ancré en toi ? Est-ce que tu vois des détails subtils comme Anastasie ?
C'est un sujet de discussion de plus en plus récurrent, notamment avec un groupe d'amis, hein, où on s'est même mise à faire des recherches sur les grandes femmes qui ont marqué l'histoire.
Elles sont nombreuses.
On parle absolument pas.
Oui,
on a découvert comme ça qu'il y avait vraiment entre Olympe de Gouges Marie Marvint ou voilà la prétendue infériorité psychologique des femmes. Et en fait, on cherche à travers l'histoire quelque part des témoins que la femme n'est pas l'inférieure de l'homme, qu'on est complémentaire, qu'on est égaux. Je crois que c'est en tout cas quelque chose qu'on doit avoir en tête aujourd'hui parce que la femme est loin d'être égale de l'homme.
C'est un peu ça. C'est un peu ça, on n'a pas le choix.
Je pense qu'il faut y aller en douceur. On a aussi des hommes qui sont complètement féministes, hein, qui combattent avec nous.
Et heureusement.
Bien sûr.
Et heureusement.
Bien sûr, mais c'est pour ça que ça marche, sinon je crois que ce serait un peu plus difficile.
Absolument.
Ce serait un peu plus difficile.
On a besoin de ces hommes-là qui parlent pour nous aussi, puisque c'est eux qui sont à la tribune, finalement.
On
est dans des systèmes de phallocratie. Généralement, quand une femme est au pouvoir, elle n'a que des conseillers hommes. La femme, selon moi, n'a jamais été au pouvoir.
Quand on regarde
au pouvoir à travers l'histoire de l'humanité.
Justement, je voulais revenir sur ça. Quand on regarde l'histoire, tous les grands philosophes, c'est des hommes.
Les grands musiciens,
même les grands cuisiniers.
Absolument. Les grands cuisiniers,
c'est justement ça qui est horrible, c'est que les postes de pouvoir sont aux hommes. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que la femme est moins intelligente que l'homme ? Bien sûr que non. C'est parce que on a l'habitude, la femme a l'habitude de devoir se mettre derrière l'homme et n'osera pas malheureusement accéder à ces postes de pouvoir parce que la société nous a pas. Nous a pas habitués à prendre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces journées internationales des droits des femmes, etc. C'est hyper important.
Et on a Nanit qui vient d'arriver dans la discussion. Nanit, oui. t'écoute.
J'irais peut-être à contre-sens de ce que mes consœurs sont en train de dire. Je me dis que la femme n'a jamais voulu être derrière. Parce que si on voit les sociétés, les femmes ont toujours travaillé pour nourrir leur famille. Elles ont toujours été soit au champ, dans nos sociétés africaines, parce que moi je viens de l'Afrique, et les femmes ont toujours travaillé, elles ont toujours contribué à l'économie de leur famille ou de leur société. Et aussi, aujourd'hui, si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont contribué aujourd'hui aux grandes recherches scientifiques, mais les hommes n'ont jamais voulu promouvoir ces femmes-là. Mais il y en a depuis longtemps. Elles ont contribué aux recherches scientifiques et tout. Et donc, aujourd'hui, la femme est en train de se battre pour que son travail soit reconnu internationalement. Mais sinon, la femme n'a jamais voulu accepter d'être en recul, d'être derrière les hommes, d'être dans l'ombre. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut faire la distinction entre respecter une autorité parce que tu as peut-être ton mari, tu as peut-être ton frère, il faut le respecter et aussi ne pas vouloir s'impliquer dans la société. Pour moi, c'est deux choses carrément différentes. Mm-hmm. Mais sinon, la femme, elle se bat toujours.
Le respect marche dans les deux sens, on est bien d'accord, Nanit.
Oui.
Hein?
Voilà, donc les femmes scientifiques ont existé depuis des années, depuis les siècles passés, hein, parce que j'en ai vu. Et aujourd'hui, vous savez, à Kinshasa, il y a une femme qui a créé un robot.
Oui.
Et c'est le robot de circulation.
Parlé,
c'est vraiment une grande première. Et aussi, c'est parce que, comme en fait, ce sont les hommes qui empêchent les femmes de progresser. Parce que comme ils sont dans les instances de prise de décision, quand la femme a un projet, ils ne veulent pas financer.
Pas seulement, je suis pas d'accord. Je crois que les femmes aussi. Le problème de la solidarité féminine, la solidarité masculine est une réalité beaucoup plus que la solidarité féminine.
Nous tombons dans le cas de la jalousie, mais la jalousie existe partout. Hein.
Même
du côté des hommes
bien
aussi.
Bien sûr, ils savent mieux s'organiser et être solidaires au bon moment, je trouve.
Moi, je me dis que la solidarité féminine existe parce que je suis dans l'association des femmes juristes du Congo. Ça fait longtemps qu'on existe, mais on a fait des grands projets à Brazzaville et je n'ai jamais eu de problème de jalousie.
Non, bien sûr qu'elle. Non, ouais. Non, c'est pas ça. Moi, je parlais même pas de jalousie. Je pense qu'il y a, un vrai problème. Quand vous voyez, souvent on dit, puisque tu viens d'Afrique, moi aussi, on dit souvent que la belle, les problèmes sociaux, la belle-mère, les belles-sœurs. Et puis, on dit souvent que les hommes africains sont paresseux. Moi, ça me rend hystérique. Parce que qui élève les enfants en Afrique? Ce sont les femmes.
Ce sont les femmes. Oui.
Et qui est-ce qui décide que c'est la fille qui va se lever tôt et le garçon ne va pas entrer dans la cuisine, ne va pas travailler à la maison? C'est la mère, encore une fois.
Ce sont les femmes.
Donc, il faut qu'on arrête de taper sur les hommes africains et que, enfin, en tant que femme, on prenne nos responsabilités, femme et mère. Je suis maman et j'ai deux garçons. Ouais. Donc, je vois très bien. Alors, effectivement, pour que ces messieurs se décident à travailler, c'est pas toujours évident, mais plus tôt on leur fera comprendre, plus facilement ils s'intégreront à différents types de sociétés.
Oui, c'est ancré dans notre histoire, hein, même dans la psychologie familiale. On a eu beaucoup de sondages là-dessus, disant que même dans les familles les plus, libérées que ce soit, c'est dans l'esprit de la mère. La mère elle-même qui finalement a l'habitude même d'être, on va dire, d'être un petit peu plus dure avec la petite fille qu'avec le petit garçon.
Plutôt qu'avec le garçon.
Et bien d'ailleurs, ça porte ses fruits parce que les filles sont toujours bien meilleures que les garçons pendant toutes les périodes d'apprentissage. Et c'est après
qu'elles osent pas faire des études.
Voilà, parce qu'elles sont éduquées à une certaine modestie, un certain recul. Et notre discussion me fait penser à cette blague féministe que vous connaissez toutes. Une femme qui veut l'égalité d'un homme, l'égalité avec un homme, manque d'ambition.
Oui.
J'aime beaucoup cette phrase.
Oui.
Je crois qu'on a un monsieur en ligne. Je ne sais pas si on va l'accepter.
Non, pourquoi pas.
Bon,
allez, on accepte.
Nathalie,
il s'est trompé d'émission.
J'ai dit que c'était une discussion entre filles, mais comme ce monsieur a appelé, on va l'accepter.
Allez, un courageux.
Oui. Monsieur Keïta.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez de la chance, hein? On vous écoute.
Je dis que pour l'harmonie de la chose, il faut qu'au moins c'est un dans ma peau, quoi.
Bon, bah, d'accord.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire, alors?
C'est un débat passionnant. Quand même, je me rallie quand même aux causes quand même des femmes. La femme, là, il nous a dit quelque part que la femme, derrière tout grand homme, il reste caché une femme. Donc, c'est cette femme quand même qui lui donne des sages conseils. Donc, et aussi, si par exemple, nous partons quand même dans les milieux villages, par exemple, la femme est la première à se réveiller et la dernière vraiment à se coucher. Elle est frappée, par exemple, par la pluie. Vous voyez, donc on doit quand même plaider pour leur cause. Ça aussi, c'est important. Quand vous parlez de la journée des femmes, je salue quand même mon professeur de philo antique, Eliane, qui est à Bamako ici. Et quand même, c'est un débat vraiment passionnant. Et maintenant, vos invités, si je vous demande d'analyser ce qui s'est passé en Afrique du Sud, vous allez vous venger ou bien vous allez dire les droits. C'est le cas de Oscar Pupitoris, quoi. Vous allez vous venger ou bien vous allez dire les droits.
Merci beaucoup, monsieur Keïta. Je voudrais revenir vers Séverine. Séverine, tu es toujours là?
Oui, Nathalie, je suis toujours là. J'écoute attentivement monsieur Keïta.
Alors, dis-moi, à Toulouse, comment tu vis ta vie à Toulouse? Est-ce que, parce que tu m'as déjà expliqué que des fois, il y a des endroits où tu passes pas trop, parce que...
Il y a un quartier qui est pas loin de chez moi, qui est empli d'hommes toute la journée. Et en fait, quand on y passait entre amis, on se sentait mal, parce que des réflexions, des compliments, on a rien demandé, ou pour eux c'est peut-être des gentils mots, mais nous on le vivait un peu comme des agressions. Du coup, on a commencé à éviter un peu le quartier.
Ouais, c'est une forme de sexisme.
Et finalement, on a décidé que non. À un moment donné, on s'est dit mais attends, non, on va
ça
pas.
C'est la résistance.
C'est un raccourci pour aller au magasin. Et on a enfilé nos jupes et on est passé fièrement dans le quartier. C'était comme un acte de résistance. Et finalement, ça a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, je passe tranquillement dans le quartier et j'entends des femmes aussi qui me disent les mêmes choses, qui ont ces mêmes craintes en fait, parce qu'on se sent presque déshabillée quelque part. Quelquefois, le regard d'un homme peut violer une femme. Je sais pas si mes amis avec qui je discute là sont d'accord avec moi, mais en tout cas,
je viens de la RDC, dans l'est du Congo. Le viol est une réalité, donc j'utiliserai pas le même verbe que toi. oui. Mais il est vrai que c'est un regard qui peut être dérangeant. Oui. Mais au fond, je pense vraiment, je suis à fond pour ton attitude et je crois que c'est ce qu'il y a à faire. Oui. Ne pas se, oui. Il faut que la peur change de camp. Et quand oui. l'agresseur et son regard changent, se rendent compte qu'on n'a pas peur d'eux et en plus oui. qu'on n'en a rien à faire,
oui. bon, bah, ils vont changer d'attitude.
Mélisse, je voudrais bien t'écouter parce que Mélisse, c'est la nouvelle génération, elle a 22 ans. Je voudrais bien savoir ce qu'elle pense de ça, ce regard.
Et de la peur du
regard. En fait, le problème, c'est que les hommes se permettent de nous dire qu'on est belle, que comme tu disais, Anastasie, tout à l'heure, se permettent de nous faire des compliments. Mais on n'a rien demandé et le problème c'est qu'on on va pas aller dire à un mec oh t'es jolie aujourd'hui,
c'est peut-être même ce qui peut attiser la jalousie.
Mais moi c'est pas le compliment qui me dérange,
mais c'est le regard.
Le compliment n'est pas dérangeant,
et
c'est le regard.
Les filles, on est obligé de se quitter, vraiment le temps passe. On a plus beaucoup de temps, on a quelques secondes. Merci à toutes et à très bientôt. Au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around.